Amis soudanais, bonsoir. On est une bande de vieilles copines, moi c'est Marie Fleur, regroupées au sein d'une petite assoce écolo, Ecologist Association.
CO2, mon amour.
Venu vous dire de façon très amicale, very friendly, et détendue, cool, qu'il faut arrêter de couper votre forêt. Hein?
Avec Denis Chessou.
Stoppez cette sale manie de niquer les arbres sous prétexte de nourrir sa famille. On est terriblement bio, on est bio, and I prove you, because ma gelapa en papier sucre est mangeable, et mon string en écorce est replantable.
Sur France Inter.
Donc on est sauvés ou presque, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec Stéphane Boja aujourd'hui à la technique, nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès, Alice Michaud et Henri-Marc Moutel la réalise. Avec une petite humeur, parce que vous le savez, il en est de l'environnement comme de tas de gens formidables. Quand on leur tresse des couronnes, et ben, très souvent, c'est qu'ils sont morts. 1,5 degré ou 2 degrés de plus, bon, on va quand même pas nous embêter avec ça. Et puis, on ne sait pas bien. Ah, ben, les morues, les espadons, les hêtres, les lagopelles, les insectes, eux, savent déjà. Et remonte vers le nord. Ouais, faut se mettre au frais. Les glaciers suent à grosses gouttes. L'été indien lui-même y perd ses plumes. Alors jusqu'à quand le sourire des Miss Météo qui se réjouissent à plein écran total de ces étés merveilleux qui n'en finissent pas, de ces soleils rayonnants d'octobre, de ces eaux si bonnes qu'on y trouve des poissons tropicaux, de ces promesses de vacances éternelles? Va-t-il enfin se figer, ce sourire, sur une réalité qu'il faudrait bien accepter un jour? Ben oui, le climat quand même s'emballe. Et plus vite qu'on ne l'avait pensé.
D'où ce titre oxymoresque et prédictif, Denis, pondu en 1992. CO2 mon amour, CO2 mon addiction aux énergies fossiles, ouais.
Et si 1 ou 2 degrés de climat, eh ben, nous propulse, j'ai bien de climat, hein, pas de météo, en plus nous propulse sur les plages merveilleuses et vers les marchands de glace, eh ben, il faut savoir que pour d'autres, nés hélas dans des pays de rêve dont on ne parle jamais, situés un peu plus au sud, eh bien, la situation est déjà intenable et ils fuient simplement pour survivre. Et c'est loin d'être fini. Il faut se préparer peut-être à ressortir les transats dans le jardin pour pouvoir les accueillir. Les vacances peuvent avoir un goût amer, un goût de sable dans la mouche. Que dit notre président? Tenez, écoutez Thomas Legrand.
Puisque le président français se dit progressiste, l'impératif environnemental et climatique devrait lui fournir le contenu de son progressisme affiché. La France n'existe, dit-il, que si elle défend des causes plus grandes qu'elle. Pourquoi le président ne transpose-t-il pas son discours onusien à la France? Pourquoi n'en fait-il pas le but, le cap qui lui manque tant? Sans doute parce qu'il est encore plus convaincu par l'aspect tactique du discours que par sa pertinence réelle. Trop d'habitudes productivistes, trop d'intérêts à bousculer, trop de modes de vie à changer, pas assez d'imagination aussi. Alors que géographiquement, techniquement, culturellement, la France aurait les moyens d'être le pays modèle dans ce domaine, les moyens d'inventer le nouvel universalisme sur l'environnement.
Alors le bouleversement climatique nous fait des canicules de 4 mois, les rivières s'assèchent comme les champs, les éleveurs et les bêtes, mais on lance sur les mers un cocorico géant en forme de porte-container à fioul lourd au nom de poètes merveilleux, pauvres Saint-Ex. Donc on le voit bien, ça chlore et ça déconne à tous les étages pour sauver l'emploi mais pas la maison qu'on habite. Alors on marche un peu partout aujourd'hui en France et le père du Petit Prince disait:
dans la vie il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer. Et les solutions suivent.
Profitons de la superbe lumière douce quand même aujourd'hui, de la nuit. Et oui, parce que cette fois, sans lumière, cette nuit, avec la 13e édition du jour de la nuit, qu'est-ce qui se passe avec cette SSA? Eh ben, vous avez par exemple l'association Agir pour l'environnement contre la pollution lumineuse et le parc national des Cévennes qui a déjà pris les devants parce qu'il a décroché cet été le précieux label de réserve de ciel étoilé. Et Sandy Dauphin, cette semaine, nous a gratifié d'un joli reportage avec la voix d'ailleurs de l'auteur du Guide du ciel, qui est un homme qui est un fou d'étoiles, Guillaume Cana, chez lui, non moins du Mont-Aigoual, où il a nettoyé le ciel.
On n'a pas besoin de centaines de lampadaires dans un petit village. On n'a pas besoin de lampadaires qui éclairent plus le ciel que le sol. Donc il faut éclairer de façon intelligente. C'est l'avantage de cette pollution parmi d'autres, c'est qu'il suffit de couper la lumière pour que ça s'arrête. Mais la possibilité d'observer le ciel, c'est à mon avis quelque chose de fondamental, surtout dans une société comme la nôtre qui est en accélération constante et pour laquelle on a vraiment besoin de pouvoir se poser de temps en temps, lever la tête vers le ciel, se rendre compte qu'on appartient à une planète, on est autour d'une étoile, et cette étoile appartient à un grand ensemble. Ça amène à relativiser certaines choses dans notre vie de tous les jours et à voir que les enjeux de notre planète sont vraiment sérieux et qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la préserver.
Aussi demandera-t-on un jour systématiquement quel est l'impact de nos actes économiques sur l'environnement. Ah, aujourd'hui c'est quand même encore un peu trop gênant, mais demain et surtout quel demain? Alors rien n'est écrit encore. Pesons chacun sur ce que l'on peut, pesons, décroissons et allégeons-nous pour tenter aussi d'habiter parfois la terre en poète. Bonjour, chère présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, chère Audrey Poulevard, bonjour à vous.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors les scientifiques, là un petit point d'actualité avec un pas de côté intéressant. Les scientifiques du GIEC ont donc mis un point de chaleur sur le i de nos inconséquences. Donc on a bien compris qu'au-dessus de 1,5 degré, on rentre dans une zone de chaos, des interactions donc qui sont merveilleusement inconnues. Et là vous revenez du Burkina Faso, vous avez rencontré un certain nombre de personnages. Donc racontez-nous, parce que là on a une autre façon peut-être de voir les choses.
Bien sûr, mais en fait la Fondation a depuis quelques mois, une partie du conseil scientifique de la Fondation a depuis quelques mois initié un travail avec le Burkina Faso qui se veut, comme d'autres pays d'Afrique et singulièrement d'Afrique de l'Ouest, exemplaire dans son chemin vers un nouveau modèle de développement qui soit différent du modèle occidental, industriel, destructeur de l'environnement.
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'imitation de ce que l'on faisait, quoi.
Voilà, c'est un vrai changement d'optique chez plusieurs dirigeants africains. Jusqu'à il y a 5-10 ans, vous en trouviez encore beaucoup qui considéraient que le modèle, c'était le modèle de développement occidental et qu'il fallait absolument rattraper ce modèle. Et aujourd'hui, vous avez tout un courant d'intellectuels, d'économistes, de philosophes et de responsables politiques qui veulent ouvrir une autre voie et qui considèrent que l'Afrique fait déjà son propre chemin, qu'elle a déjà inventé beaucoup de solutions, beaucoup de transformations, beaucoup d'organisations de ces sociétés, notamment d'organisations solidaires de ces sociétés pour faire face à l'adversité à laquelle ce continent est soumise. Et il cherche maintenant le nouveau modèle de développement économique plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du vivant, plus respectueux de l'autre.
C'est-à-dire qu'ils disent carrément qu'en fait le nœud du problème c'est nous, quoi.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est même pas eux qui le disent, ce sont aussi les chiffres. Bah c'est-à-dire qu'on sait très bien que la responsabilité du problème, elle est à chercher dans les pays riches et que aujourd'hui les pays riches développés au sens occidental du terme sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, alors qu'ils sont ceux qui subissent pour le moment le moins les effets du réchauffement climatique, même si évidemment on sait tous nos auditeurs et on sait tous autour de cette table que les effets se font déjà aussi sentir chez nous. Moi, ce qui me frappe chez ces dirigeants africains, du Burkina, du Ghana, du Niger, que j'ai pu rencontrer, comme beaucoup de personnalités de la société civile burkinabé, comme des scientifiques de plusieurs pays de ce continent, des techniciens, des cadres de ministères, etc. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point les populations, alors peut-être pas dans les 54 pays d'Afrique, parce que c'est évidemment des situations très diverses, et parfois même à l'intérieur d'un pays, il y a des situations très diverses, mais les populations que j'ai pu rencontrer, les responsables politiques, les scientifiques, les chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer, se rendent tout à fait compte qu'ils subissent déjà l'impact du réchauffement climatique, et que le modèle de développement économique qui est celui qui domine sur l'ensemble de la planète depuis 200 ans, modèle capitaliste mondialisé, amplifie le problème, les rend encore plus vulnérables et poursuit la destruction. C'est ce que nous montre le rapport du GIEC. Donc eux, ils sont déjà en train d'expérimenter d'autres solutions. Et ils sont déjà... Alors,
qu'est-ce que l'on a comme autre solution? Est-ce qu'on passe par l'agroécologie? Est-ce que l'on passe par quoi, par exemple?
Déjà, on sort de ces décennies d'individualisme dans lesquelles nous sommes depuis 150 ans et singulièrement depuis l'après-Seconde Guerre mondiale pour repartir vers le collectif, vers le sens de la communauté, c'est-à-dire un autre rapport à l'autre, un autre rapport au vivant. Et ça, plusieurs pays d'Afrique l'expérimentent déjà et depuis longtemps. Ensuite, effectivement, quand je parle au ministre de l'Agriculture, burkinabé, j'ai un discours totalement différent de celui du ministre de l'Agriculture français. C'est-à-dire que lui, le ministre de l'Agriculture burkinabé, me dit, il faut changer de paradigme. C'est pas moi, ONGE, qui lui dit. Lui, il me parle d'agroécologie, il me parle d'agroforesterie, il me parle de repenser la lutte contre les invasifs sans les produits chimiques, par exemple. Pourtant, il a entre 900 000 et 1 million de personnes qui, chaque année, souffrent de malnutrition sévère ou meurent de faim dans son pays. Donc, il pourrait être tenté de chercher des rendements maximum et du productivisme. Il cherche autre chose. J'ai, par exemple, eu la chance de visiter la ferme de Guillet, qui est un exemple et qui a fait beaucoup d'émules dans le pays, c'est pas un exemple seul, où 11 villages se sont mis d'accord pour exploiter toute une zone forestière où ils ont une sorte de conseil d'administration dans lequel chaque village envoie des représentants qui décident de tout ensemble. Alors pendant que en Europe et en France par exemple, des militants prennent des gaz lacrymogènes parce qu'ils essaient d'installer des ZAD, et bien là-bas vous avez une pouponnière, des écoles, des parcelles agricoles cultivées de façon collective, des décisions collectives sur l'avenir du lieu et une façon de produire qui est totalement respectueuse de l'environnement. Et encore une fois, c'est pas le seul endroit.
Alors une autre actualité, là c'est vraiment la vôtre au sein de la Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est l'opération Let's Bio. Alors qu'est-ce que c'est Let's Bio, s'il vous plaît. Soutenu, je tiens à le dire, aussi par la Fondation Carasso. Oui. Mais donc, qu'est-ce que l'on fait?
Let's Bio, ça nous est venu du succès d'un dispositif que nous avons à la Fondation qui s'appelle Mon Resto Responsable, je fais très très vite, qui permet à des restaurateurs collectifs, que ce soit dans des crèches, dans des écoles, dans des lycées, dans des hôpitaux, dans des crous, dans des EHPAD, de passer progressivement à une alimentation et uniquement bio ou durable, donc c'est pas que du bio, ça peut être aussi de l'agriculture durable, en faisant travailler les producteurs locaux ou départementaux ou régionaux, en formant les équipes différemment et en proposant aux convives des plateaux donc où il n'y ait que de la nourriture bio ou durable.
C'est-à-dire que vous, c'est de la conversion au bio pour vous ?
C'est de la conversion. Ça marche, ce dispositif Mon Resto Responsable marche super bien. Et pour l'étendre, il nous faut l'aide de l'État. Il faut que l'État, c'est ce que nous demandons avec Let's Bio, puisse fournir aux collectivités des fonds, donc qu'on a évalué à 160 millions d'euros par an ou 330 millions d'euros par an, 160 si ça ne concerne que les écoles, 330 si les EHPAD y sont associés, 330 millions d'euros par an pendant 3 ans, un dispositif donc limité dans le temps, pour aider les restaurants collectifs qui veulent se convertir à ce type de production de plateaux de nourriture. Pas parce que le bio coûte plus cher, mais parce que passer au bio, comme quand on est un agriculteur et qu'on se convertit au bio, ça suppose de nouvelles machines, de nouvelles méthodes de travail, la formation du personnel, de nouveaux circuits d'approvisionnement. Et donc, ça suppose que l'État aide les collectivités qui aident les restaurateurs.
Très rapidement.
Let'sbio.org, si vous voulez participer.
Let'sbio.org, donc voilà, let'sbio.org. Très rapidement, là on a vu qu'il y avait une action de la part des Amis de la Terre et des actions non violentes COP21 qui se sont retrouvées devant les agences de la Société Générale. Donc eux rappellent que la banque numéro 1 des énergies sales, comme ils le disent, doit mettre fin à son soutien aux énergies fossiles, à se retirer en priorité du projet Texan de terminal d'exportation de gaz de schiste de Rio Grande. À côté de ça, on voit quand même des fonds qui sont en train de bouger.
Oui, il y a des choses qui bougent dans la finance internationale, il y a des choses qui bougent dans la banque, dans l'assurance. L'assureur AXA en décembre dernier a annoncé qu'il sortait des investissements fossiles. Aujourd'hui, la finance internationale commence à se rendre compte, premièrement, que les énergies renouvelables, c'est rentable. Deuxièmement, que la finance verte, c'est profitable. Et troisièmement, que c'est moins risqué aujourd'hui que les investissements fossiles classiques. Parce qu'on est moins exposé aux risques climatiques quand on investit sur du durable et sur de l'écologique.
On va investir dans de la forêt, nous. On espère qu'elle sera durable. Voilà, donc ça va être la suite du programme. Dans quelques instants, on va rencontrer donc un homme, André Buchère, qui est paysan et agriculteur. Il va aussi nous parler de forêt, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, François-Xavier Drouet avec son film Le Temps des forêts. Calling the world from isolation. Cause right now that's the ball where we be trained. Coming back to Très très vite, Audrey Pulvar, que en fait vous avez un bébé chlordécone chez vous, donc
malheureusement. J'en ris, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui, le chlordécone, j'y ai été exposée pendant toute mon enfance.
Mais vous avez rien du tout, ça a dû bousiller tous les microbes. Enfin, c'est ça.
Non, c'est ce que je plaisantais en disant que comme ça. Je tombe jamais malade, c'est peut-être parce que je suis tellement remplie de chlordécone que les microbes ont peur, mais non, là je plaisante.
Bien sûr, et on sait que la situation n'est pas réjouissante pour vous qui nous écoutez, parce que c'est le matin, que ce soit donc à la Martinique,
maman,
en Guadeloupe, voilà. Allez, donc là c'était Gorillaz et George Benson, pardon, sur France Inter, toujours. Et là, nous allons partir, où cela, dans la Drôme, à la rencontre d'André Bucher. On a déjà une partie du décor, on va dire que Sisteron n'est pas très très loin, mais on est dans ce département de la Drôme, hein, André Bucher, donc chez vous. Quelle altitude là?
Alors la ferme est à 1080, c'est l'extrême pointe sud de la Drôme,
oui.
Montfroc. Montfroc, quand on dit où t'habites Montfroc, les gens croient toujours qu'on plaisante. Oui. Et en fait, c'est les monts du Froc, c'est M-O-N-T et F-R-O-C.
Il n'y avait pas des moines défroqués là-dedans?
Voilà. Et donc, l'extrême pointe sud, 180 km de Valence. Quand on veut faire une farce à un administratif, on l'envoie...
Tout au bout.
On l'envoie à Montfroc.
Alors nous, on n'est pas très loin de l'orage hein, quand même. Non. Parce que là, on le voit arriver quand même tranquillement.
Oui, on va pas trop s'éloigner.
Alors on a quand même cette montagne de Lure, hein, une des montagnes, on va dire, tutélaires, chez Giono, qui est juste derrière, là.
En face, oui. En fait, ça c'est le versant nord de l'Ure et nous on est côté sud.
Alors où sommes-nous? Nous sommes dans la vallée du Javron. Donc nous avons la montagne de l'Ure avec son côté calcaire au-dessus de nos têtes. Et rencontre avec André Bucher qui vient de sortir un ouvrage, on y reviendra, un court instant de grâce. Donc on est au sud du parc des Baronnies provençales. Et en été, là c'est un ciel hein, qui ne désemplit pas. Vous pouvez cueillir à peu près toutes les étoiles que vous souhaitez. Et ici, comme partout en France, on attend quand même les soupirs de la pluie sur cette terre de soif. Alors c'est aussi un lieu où les corbeaux quand même se réunissent pour raconter leurs histoires de paroissiens. Parce que près de la beauté, oui, mais aussi un peu loin de tout. Et c'est aussi pour ça qu'André Bucher a créé, donc il y a maintenant un paquet d'années, une belle foire bio, un festival du livre au mois de juillet. Et le personnage, si vous voulez, il pourrait très bien être dans les bouquins de Jim Harrison. Alors ouvrier agricole, berger, planteur d'arbres et donc aujourd'hui écrivain et donc paysan. Longue silhouette de moine, un peu hirsute, mais tête quand même de grand sage. Alors ça grimpe sec pour aller monter, pour grimper dans sa tanière. Mais vous l'avez compris, l'orage s'apprêtait à galoper dans le ciel là de fin août. Ça c'est un ciel qui sait bien les fabriquer. La montagne de Lure, et puis, au-dessus de nos têtes, quand même, une autre montagne, la montagne de Pales, André Bucher.
Pales, c'est en face. C'est quand même légèrement inférieur à la montagne de Lure. Le point culminant, c'est 1540. Donc, la ferme est à 1080. Les terres qu'on travaille, là, c'est 1100. Tout derrière ce qu'on voit, là, toute la matte de bois, de chênes. Les chênes, c'est des chênes pubescents. Chêne blanc, derrière, il y a du terrain encore, on croirait pas, mais il y a quand même 35 hectares qui ont été défrichés. Et les terres qui sont derrière sont à 1300. Ouais. Et la dernière est tout en haut, là, où on a boisé, où vous voyez des pins et des cèdres, qui sont dans le couvert existant, parce qu'on a été les premiers en France à refuser de déboiser pour boiser.
Ah, pour rappeler comment ça fonctionnait.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait le fonds forestier français, le FEOGA, qui donc subventionnait les plantations. Et la politique à ce moment-là de la... On appelait ça la DDA à ce moment-là, Direction départementale de l'agriculture et donc de l'ONF, c'était, on déboisait, on virait tout et on replantait évidemment en pin.
Donc en résineux et en espèces...
Moi, je me suis opposé à ça, j'ai demandé un quota de feuillus. Donc il a fallu bagarrer, j'ai réussi à en obtenir 30 à 40%, et c'est vrai qu'à 1300, 1400, 1500, il n'y a plus que les cèdres et les pins noirs quand même. Ouais. Donc j'ai été obligé quand même d'accepter un quota de résineux.
Votre fils, bonjour jeune homme, qui a repris donc l'exploitation, ouais. Et ben voilà.
Voilà les pôtres.
On va dire à votre fils de ne pas faire une marche arrière tout de suite, voilà.
Là, elle est là avec l'enveloppe.
Oui.
Et il faudra la décortiquer. Quand on enlève l'enveloppe, on voit quand même que le grain est moins gros que le grain du blé.
Oui.
Mais enfin, là, encore cette année, il est bien nourri, vous voyez. Il est rond. Des fois, il est tout plat quand il fait sec. Là, cette année, on a eu l'eau au bon moment, les bons orages. Et il est relativement dodu, comme on dit.
À cette altitude-là, vous avez réussi à vous diversifier comme vous le souhaitez, donc en bio. Et donc là, on est avec, entre autres, le petit épeautre qui marche fort maintenant.
Oui, c'est une céréale qui a toujours été traditionnellement cultivée dans le sud, dans le centre. Elle est revenue un peu au goût du jour avec le développement de l'agriculture bio. Et c'est une céréale qui est intéressante parce qu'elle est relativement pauvre en gluten,
ouais,
et riche en lysine. Et puis aussi, je crois, plus riche en minéraux.
Ah, il y a le petit épeautre. Et qu'est-ce que vous faites d'autre?
Donc là, il y a le jardin. Là, on fait tous les légumes de conservation pour après mettre au congélateur ou manger au fur et à mesure. Sinon, dans les champs, en plein champ, on fait de l'ail, de l'oignon, des pommes de terre, des potimarrons, des butternuts, des courges, des échalotes. Et puis des pois chiches, des lentilles, de la lavande et du fourrage. Et l'épeautre et du seigle.
En fait, de quoi aujourd'hui, on va dire, le paysan est garant?
Mais il est garant peut-être d'une conscience du lieu où il vit. Je pense que l'interrogation qui était présente dans le livre, à un moment donné, Victor, qui est entrepreneur de travaux, il dit à Émilie, la gardienne un peu du lieu, il dit, mais est-ce que ces gens qui veulent déboiser, qui veulent céder aux sirènes de quelques appâts du gain, il dit, mais est-ce que ces gens-là savent seulement dans quel pays ils vivent? Je crois que le paysan, c'est quelqu'un qui, comme le nom l'indique, qui vit au pays et qui vit et qui travaille au pays et qui sait faire encore ce qu'il faut pour être relativement autonome dans ce pays. Un paysan, c'est quelqu'un qui est encore capable de tenir une faucille. Il est capable aussi de se familiariser avec un GPS. Il va s'adapter. Il a un rapport à son entourage, aux animaux. C'est pas quelqu'un qui va commencer à faire passer la notion de profit avant éventuellement l'équilibre du lieu où il vit.
Comment on fait avec les biches, les cerfs qui vont aussi vous bouffer une partie de vos plantations? Comment on cohabite avec tout ce petit monde-là et de manière un peu plus générale, donc avec la faune?
Bon, être paysan, en plus être paysan ici, c'est être dans un drôle d'univers, parce que c'est une maison finalement qui est où? Qui est dans la montagne et qui est en pleine forêt.
Ouais.
Donc on est confronté aux animaux que vous venez de citer. On n'a pas le choix, il faut trouver un moyen, il faut accepter qu'eux aussi sont déterminés dans ce lieu, vivent dans ce lieu, et donc il faut admettre qu'ils prélèvent également. Donc il va falloir chercher une relative, à défaut d'harmonie, une relative quand même cohabitation possible. Alors ça peut passer par des clôtures, ça peut passer par leur apporter du sel avant qu'ils redescendent aux premières neiges, voilà, ça demande un souci, une attention. Alors, il y a les chasseurs quand même, les chasseurs sont là pour réguler.
Ouais.
J'ai toujours laissé les chasseurs chasser sur la propriété, je n'ai jamais empêché, parce que je considère que ça fait partie également de l'enjeu. Bon, les cerfs, par exemple, là, dans un mois, c'est d'ailleurs assez curieux, avant ils le faisaient là-haut, et maintenant ils viennent...
Ils viennent braber ici?
Ils viennent se battre ici, là, dans le bas du pré.
Ah oui, effectivement.
On voit les yeux brillent dans la nuit, ouais, là, et on entend les bois s'entrechoquer.
Une quinzaine d'ouvrages avec des titres comme Le cabaret des oiseaux, Pays à vendre, La vallée seule, Déneiger le ciel. C'est très beau, Déneiger le ciel. Et puis donc le dernier, on va y revenir avec un court instant de grâce. Donc André Buchère, paysan et écrivain, dans cet amphithéâtre aux yeux bleu, gris ou noir, avec aujourd'hui, en ce moment, vous avez le brame du cerf. Et avec donc ce besoin de tremper sa plume dans cet encrier et de voir quand même plus loin que la terre.
On revient toujours à cette notion, sinon d'harmonie, d'équilibre. Je me voyais mal dans un endroit difficile, presque ingrat, parce que par exemple, là, on voit le jardin, les gens me disent « Oh, quel beau jardin tu as !» et tout. Puis après, ils regardent et ils voient les pierres.
Il faut ramer.
Ils disent « Comment tu fais pour au milieu des pierres ?» Bon, il faut être un peu sorcier quand même. Bon, mais là, c'est un coin quand même ingrat. Dans le temps, quand on regarde un peu les gens qui occupaient ces lieux, ils étaient bien obligés l'hiver, faute de distraction, et qu'est-ce qu'ils faisaient finalement? Ils faisaient de l'artisanat, où ils peignaient, où ils faisaient des objets, ils sculptaient des objets. Émanait d'eux une envie créatrice. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de leur vie, c'était un indissociable. Et donc moi, je prétends qu'ici, ces régions, ont évidemment besoin d'une économie, une économie difficile, mais elles ont besoin d'un imaginaire aussi pour les porter. Écrire nourrit mon activité de paysan, et être paysan nourrit mon activité d'écrivain.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare, où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges
par un après-midi pluvieux. Je descendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Un très joli chêne liège. Et donc François-Xavier Drouet, donc réalisateur du Temps des Forêts, écoute ce reportage. Et on va rentrer donc dans la forêt aussi avec André Bucher et le cœur de son livre « Un court instant de grâce ». Le bois énergie, ça a toujours existé, mais là, ça s'accélère. Et on va regarder les arbres un petit peu différemment. Parce que au sud, à Gardanne, vous avez donc une centrale donc à charbon. Et il faut donc la reconvertir. Une des quatre unités a été convertie en centrale des biomasse en 2012. Et donc on vous dit que ça pourrait fournir 6% de la production électrique de la région PACA. D'accord. Mais simplement, il faut prélever 35% du gisement forestier dans un rayon de 250 km. Vous rajoutez à cela que vous avez un rendement donc qui est quand même très faible, hein, 30%. Alors là, actuellement, donc c'est la société allemande Uniper qui est évidemment sur le coup. Comment on fait à la fois pour recycler, bien sûr qu'on pense aux emplois. Et donc, le cœur du livre maintenant, c'est un court instant de grâce et qui fait donc la part belle d'ailleurs aux femmes qui luttent vraiment contre ce projet. Et là, au centre de l'affaire, c'est l'alimentation en bois. Il faut de grosses quantités et cela a créé de la résistance.
Bon, il y a des collectifs qui sont créés immédiatement en réaction à ce projet, donc SOS Forêt du Sud, notamment dans les Cévennes, parce que dans les Cévennes, c'était déjà acté. Parce qu'il faut quand même dire que ce projet, il remonte à loin déjà. C'est Sarkozy, dans ses visites dans la Meuse, qui avait dit « la forêt, c'est de l'argent qui dort ». Donc le gouvernement socialiste a acté l'intention, ils ont embrayé. Donc le projet a vu le jour. Et après, aussi sec, il y a eu des manifestations, évidemment, d'hostilité, de refus du projet. On en est à l'heure actuelle à une première décision donc du tribunal administratif qui a invalidé le projet de la centrale pour une partie. Et le lendemain, immédiatement, le préfet a acté un recours et le ministre de la Transition écologique aussi. Et entre-temps, le président de région a commencé à sermonner les différents directeurs de parcs qui s'étaient opposés au projet, le parc du Luberon, le parc des Baronnies, sauf qu'il a menacé de couper les robinets en disant « Écoutez, il faudrait savoir, je vous subventionne en tant que parc. » Il faut savoir aussi négocier du point de vue de l'économie de notre région. Et donc voilà un projet qui va créer des emplois. Enfin bon, je ne vous file pas l'argumentaire total, hein. Vous imaginez volontiers. Et donc, voilà.
Alors, ce qu'il y a derrière, quand même, c'est que si vous avez une centrale donc, qui fabrique de l'électricité avec un rendement extrêmement médiocre, avec évidemment un charriage de bois dingue, eh ben, ça veut dire qu'aussi que lorsque vous prenez un compas autour de Gardanne, ben, vous êtes obligé d'aller chercher du bois, d'aller le cueillir, comme on dit très joliment, un peu partout.
Oui, dans un axe Marseille-Grenoble, Alès, Limoges. On est dans cet axe-là, 250 000 tonnes de bois quand même, hein. Donc il va falloir approvisionner par an. Ouais. Parce qu'actuellement, ils se servent au Canada, Roumanie, je crois, et encore un autre pays de l'Est. Ce qui est une aberration de plus. Donc automatiquement, ils ont aussi ce coup près de dire il va falloir qu'on réussisse à s'approvisionner localement. Et là commence, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était les dégâts collatéraux que cette implantation, outre sa nuisance personnelle, allait causer sur les forêts en général.
Il en plus au bois et les haies sont coupées. Car ici on pense qu'à la rentabilité. Voyez, dansez.
Entrez dans la danse. Voyez comme on danse. Sautez, dansez, tronçonnez qui vous voudrez.
Là, on est très localement avec des gens qui, jusqu'à présent, avaient, on va dire, presque leur lopin de forêt. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un autre regard là, qui commence à arriver.
Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des chargés de mission qui commencent à collaborer avec les agents de... Il faut préciser quand même que l'ONF, la direction, est pour, mais que la base, au départ, est contre. Et donc, on a commencé à voir arriver ces gens-là dans les fermes, dans les maisons, en disant oui, vous avez une parcelle, là, bon, c'est vrai que jusqu'à présent, elle n'était pas tellement rentable à exploiter, et comme ça,
Elle est en pente, elle est difficile. Elle est
en pente, elle est difficile. Bon, les forestiers sont pas chauds. Mais tout à coup, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ça fait 20, 30, 40 hectares. Tout à coup, tout change un peu de perspective. Et des enjeux qui étaient apparemment anodins deviennent tout à coup peut-être un peu lucratifs. Et puis on fait monter comme par hasard un peu le prix du bois. Comme ça, on met en danger la filière bois actuelle. Hein, bon, la filière granulée, tout ça. Bon. Mais on s'en fout, bon, parce qu'il y a quand même la papeterie qui est déjà sur le coup.
Ah oui.
Du coup, il faut.
Et
faut
après essayer. Le granulé bois que l'on utilise soit dans les chaudières collectives, soit dans les chaudières individuelles.
Ouais. Alors pour court-circuiter un peu, pour prendre l'ascendant sur ces deux filières, eh ben, on a commencé à pratiquer un peu le dumping et donc aller chez les particuliers. Et les particuliers, ils cèdent un peu à la sirène de dire moi, jusqu'à présent, ça ne me rapportait rien. Ben là, je vais peut-être un peu en tirer un bénéfice. Après tout, pourquoi pas ? La forêt, ça repoussera bien, un jour.
Alors ça repoussera bien, mais surtout si on l'apprête, on la plante en résineux, c'est-à-dire qu'en 30, 40 ans, c'est fait. Quoi. Donc,
voilà.
Mais ça change complètement la donne et les paysages.
Bien sûr, et puis l'état du sol et le rapport à la biodiversité, et toutes ces choses-là ne sont absolument pas paramétrées, mais prises en compte. Elles sont prises en compte dans un logiciel, mais elles ne sont pas prises en compte dans leur réalité.
Une forêt bien menée, pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Ben, c'est un peu l'avenant de ce que j'ai pu, moi, à un moment donné, essayer de faire. C'est-à-dire, quand on a reboisé, on nous proposait gaillardement de déboiser et, voilà, et de replanter pour une grosse majorité en résineux. Donc moi, j'ai refusé de déboiser pour boiser. J'ai considéré que c'est comme une société. Il faut qu'elle soit métissée. Alors ça, en 84, c'était pas forcément dans les mœurs.
Non.
Donc j'ai dit on va mettre des essences différentes et on va les faire coexister entre elles. Ensuite il y a la manière de procéder, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les anciens finalement faisaient des éclaircies régulières, comme le prévoit d'ailleurs au départ quand on remonte en arrière le code forestier. Par exemple des résineux, bah, théoriquement on devrait faire une éclaircie 1 sur 4 au bout de 30 ans. Alors qu'on considère maintenant que le bois est rentable à partir de 30 ans, donc on vire tout, donc c'est pas du tout la même conception. Et c'est tout comme ça à l'avenant. La futaie jardinée, bon, c'est un mot un peu technique pour expliquer qu'on prélève dans un lieu précis de forêt, on prélève des arbres, à la fois les arbres morts parce que ce sont des puits de carbone morts, asséchés. Et puis on prélève aussi des jeunes plants qui sont trop nombreux et qui vont s'asphyxier entre eux. Donc on éclaircit, 1 sur 4 en général, et puis on revient comme ça tous les 5-10 ans et on a une forêt finalement entretenue. On prélève en fonction des besoins, en fonction d'une économie locale, et pas de trucs gigantesques ou disproportionnés. Donc la motivation, on la voit bien, la motivation elle est économique. Nous on a à résister, on a à savoir pourquoi on veut vivre, pourquoi on veut se battre.
Qu'est-ce qui manque quand même à l'écologie pour arriver à... Faute de renverser la table, en tout cas.
Le problème de l'écologie, c'est que dans l'équation économie-ingénierie, voilà, on se dit on est assez ingénieux maintenant avec tous les progrès technologiques pour trouver des solutions. On croit à la technicité va nous sauver. C'est pas vrai. Bon, l'écologie, elle la ramasse derrière, elle la traîne d'un point de vue politique. Et pourquoi ? Parce que quand il s'agit de concevoir éventuellement des actions précises et concrètes, on s'aperçoit que ces gens sont dans le champ de la bataille politique, mais pas dans le champ de la conservation des territoires. Et donc, voilà, pourquoi il n'y a pas des journées pour planter des arbres ? On sait très bien que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Pourquoi on n'a pas des journées nationales de l'arbre où on planterait, imaginez 500 000 personnes qui plantent ne serait-ce qu'une dizaine d'arbres dans la journée ? Vous vous rendez compte ?
Et il y a aussi le travail de fourmi que vous effectuez, c'est-à-dire d'essayer d'amener les gens aussi avec du ressenti.
Alors ça, c'est le problème, je pense, l'enjeu majeur de la littérature au XXIe siècle, c'est que on sait que l'enjeu il est environnemental et que donc il faut une autre sensibilité, il faut éveiller cette sensibilité-là. Faire appel à l'intelligence raisonnante, discursive, c'est bien pour commencer à s'informer, c'est bien pour commencer à avoir émettre un jugement, un avis, mais pour agir, c'est pas le mieux. Pour agir, c'est l'émotion quand même qui va vous pousser un peu aux fesses. Et finalement, pour l'émotion, le roman est préférable à mon avis à l'essai. Donc moi, mon combat, il est quand même aussi culturel, il est là, c'est d'essayer de donner envie aux gens, essayer qu'ils ressentent la beauté du monde qui les entoure et que du coup, ça leur fasse de la peine qu'ils soient détruits.
Le sens que vous donnez à votre vie, donc paysan, écrivain.
Oui, on dit qu'un type, il réussit sa vie s'il a des enfants, s'il a été amoureux, s'il a planté des arbres, s'il a écrit ou s'il a peint, ou bon, je suis à peu près dans les clous.
C'est bon.
Sinon, j'essaie d'être à ma place et de faire ce que je dois faire. Je sais que c'est pas fini, ça durera ce que ça pourra bien durer, et je participe à la grande roue folle de l'univers, à ma façon.
Rencontre avec André Buchère, donc au sud de la Drôme, avec Un court instant de grâce. Donc c'est son dernier ouvrage aux éditions Le Mot et le Reste, Un court instant de grâce. Puis si vous souhaitez aussi le voir, vous avez Benoît Pupier, qui est un jeune cinéaste, qui a fait un très bon documentaire sur lui, qui s'appelle Entre terre et ciel. Benoît Pupier, Entre terre et ciel. Alors, comment va la forêt française? En fait, pas mal. En deux siècles, elle a doublé de surface, 16 millions d'hectares, 30% de la surface de notre pays. Alors des forêts qui font du bien, on peut prendre des bains d'arbres, des forêts cycles de l'eau, des forêts stockeuses de CO2 et aussi pourvoyeuses d'oxygène, qui ne produisent pas de déchets, forêts maison des animaux et de la végétation, forêts bois énergie, forêts maison en bois, forêts qui nous apprend le temps. C'est extrêmement important, ça aussi. Mais, évidemment, ça peut être aussi une bonne variable d'ajustement dans le domaine urbain et périurbain. Et puis aussi, quand même, forêt qui va mal.
Bah, tu vois, ici, on est au beau milieu d'une plantation monotype. C'est-à-dire que c'est un seul type d'arbre qui a été planté il y a environ 20-25 ans. On fait des lignes, des rangées d'arbres, un arbre tous les 3 mètres, ce qui fait environ 1000 arbres à l'hectare. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? La question se pose, hein. C'est bien une plantation d'arbres. Si on tend l'oreille, t'entends les oiseaux, toi? Pas d'oiseaux. Si on regarde le sol, il n'y a pas de vie. Il n'y a aucun végétaux qui pousse. La seule chose qu'on a obtenue, et c'était l'objectif, c'est, dans ce cas-là, ce sont des épicéas, c'est d'avoir 1000 épicéas à l'hectare. Et on va appeler ça une forêt. Ça n'a pas du tout les attributs d'une forêt. Si je regarde le sol, j'ai des aiguilles d'épicéas. Si je creuse, j'ai plusieurs années d'aiguilles empilées les unes sur les autres, elles ne sont pas transformées, ça fait pas de l'humus. Pour que ça se transforme, il faudrait qu'il y ait d'autres types d'arbres et que les feuilles se mélangent au niveau du sol.
Alors là, c'est drôlement intéressant d'avoir évidemment ce témoignage. François-Xavier Drouet, bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous avec Le Temps des Forêts, qui est sorti donc le 12 septembre. Vous avez donc réalisé ce documentaire. On a entendu cet homme que vous avez tourné chez vous dans le Limousin, parce que ce documentaire a été tourné, ce film a été tourné à la fois dans les Landes, dans le Limousin, dans les Vosges et aussi dans le Morvan. Vous n'avez pas du tout cherché à esthétiser quoi que ce soit, hein, loin de là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez en fait une déconstruction de l'image, on va dire, de la forêt authentique, on va dire avec Hansel et Gretel dans une clairière, voilà. Et derrière ça, c'était quand même de nous montrer ce qui se passait. Vous avez une très jolie formule, vous dites, on n'est pas du tout dans un régime de déforestation, mais de malforestation.
Oui, parce qu'on a toujours en tête, évidemment, l'exemple des forêts tropicales, avec donc ce drame de la déforestation. En France, bah, comme vous l'avez dit...
Le Brésil, avec le nouveau, peut-être, président, ça va être pire. Hein,
donc, oui. Ça, oui. En France, comme vous l'avez dit, la surface forestière, elle est plutôt stable, mais la question, c'est quelle forêt? Il y a toute une partie qui est boisée, mais est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? On en doute. Et tout à l'heure, donc André Buchère l'a raconté. Donc, par exemple, vous avez des programmes de politique publique aujourd'hui qui incitent les propriétaires à raser des forêts naturelles soi-disant improductives, ou en tout cas qui n'intéressent pas l'industrie, pour les mettre dans des chaudières et à la place replanter des résineux.
Alors aujourd'hui, lorsque l'on parle de bois énergie, on parle d'énergie verte. Alors oui, bien sûr que il y a des avantages. On connaît bien maintenant ces petits cylindres marrons, ces granulés qu'on appelle des pellets. Vous avez 800 000 foyers qui se chauffent avec en 2017. C'était un très très gros boom d'ailleurs. Alors jusqu'à présent, on récupérait en fait la sciure, hein, c'était des scieries, un petit peu comme si on récupérait les épluchures des pommes de terre. Mais à part que maintenant, est-ce qu'on est obligé de planter des pommes de terre, si j'ose dire, enfin donc du bois, est-ce qu'on utilise du bois et non pas du branchage ou bien de la sciure pour cela?
Oui, bah le bois énergie en tout cas a explosé ces dernières années et là il y a une directive de l'Union européenne au mois de juin justement qui souhaite passer à 30% d'énergie renouvelable au niveau européen et là-dedans le bois énergie a une grosse importance. Sauf qu'en fait ça met un petit peu le bazar dans ce qu'on appelle la hiérarchie des usages, c'est-à-dire d'abord évidemment faire du bois d'œuvre qui va stocker le carbone plutôt que le brûler, parce qu'il y a toujours cette idée que le bois est une énergie renouvelable. Or c'est pas une énergie renouvelable comme les autres, d'une part parce parce que c'est pas une énergie, elle est pas décarbonée, hein, ça dégage du carbone quand on brûle du bois, et beaucoup plus d'ailleurs que quand on brûle.
On rappelle qu'il l'a stocké avant, hein, quand même.
Ouais, d'accord, mais il en relargue. En tout cas, il en relargue, et puis, en plus avec un intérêt calorifique moindre que les énergies fossiles. Et d'autre part, il le recapture, mais pas à l'instant T, il va mettre des décennies avant de pouvoir le restocker.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes pas non plus un promoteur des énergies fossiles, quoi, donc
La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quel rôle la forêt peut jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique? Et de nombreux forestiers et organisations pensent que la forêt doit d'abord être un puits de carbone, stocker du carbone, et que l'exploitation forestière doit être d'abord orientée vers le bois d'œuvre et vers la construction de matériaux qui vont stocker ce carbone de façon durable, plutôt que d'être largué dans l'atmosphère sous forme de bois, avec le bois énergie.
Alors François-Xavier Drouet, aujourd'hui il y a une marche pour le climat et en parallèle aussi une marche pour les forêts. 01 56 40 40 35.
Cher CO2 mon amour, bonne nouvelle, la révolution verte est en marche. Actuellement, des citoyennes et des citoyens, des forestiers de l'Office national des forêts, des associations de protection de la nature comme le réseau alternatif forestière, la LPO, France Nature Environnement et beaucoup d'autres marchent depuis Strasbourg, Mulhouse, Valence, Perpignan pour rejoindre la forêt de Troncé dans l'Allier. Cette marche citoyenne vise à alerter l'opinion publique sur les dérives qui menacent nos forêts publiques. Nos forêts fixent le carbone et filtrent les eaux gratuitement. Nos forêts préservent la biodiversité, nous protègent des aléas climatiques et nous accueillent gratuitement. Pour garantir ces fonctions vitales des forêts, il faut des passionnés capables de les gérer durablement. L'avenir de la forêt s'écrit aujourd'hui à la lumière du productivisme et de la rentabilité à court terme. Nous marchons car nous ne voulons pas que la forêt se résume à un simple espace de production de bois résineux, calibré, mécanisé, industrialisé et artificiel. Pour défendre ce patrimoine qui est le vôtre, informez-vous sur le site Marche pour la forêt et rejoignez la marche le 25 octobre 2018 à Sérilly dans l'Allier. Merci à tous.
Alors on voit aussi dans le temps des forêts donc des manifestations avec des salariés de l'ONF qui au départ l'ONF donc l'Office national des forêts doit assurer la pérennité de la forêt publique, assurer donc son renouvellement. C'est devenu un établissement public industriel et commercial et son budget tourne principalement sur la vente du bois.
Oui, ça c'est ce que dénoncent les syndicats de l'ONF. Là, à travers cette marche de la forêt, il y a d'une part cette lutte contre l'industrialisation de la forêt dont je parle dans mon film, et d'autre part cette défense de ce qu'on appelle la multifonctionnalité de la forêt. Dire que la forêt c'est pas seulement la récolte de bois, c'est aussi évidemment le stockage de carbone, c'est aussi les fonctions récréatives, les fonctions écologiques au niveau de tout ce qui concerne l'eau. Et ça, cette notion-là aujourd'hui, elle est très attaquée parce qu'il y a toute une partie de la filière bois justement qui pense que d'abord la forêt c'est d'abord de l'économie et que ces autres fonctions là si on pouvait les mettre un peu de côté ce serait pas mal.
Et c'est aussi du maintien de la biodiversité.
Bien sûr. Et aujourd'hui, avec les techniques forestières actuelles, moi je suis sur un territoire où le modèle de l'exploitation forestière dominant, c'est la coupe à blanc. Donc la coupe rase, c'est-à-dire on coupe tous les arbres d'une parcelle...
D'un seul coup.
D'un seul coup. Voilà. Et donc on extermine toute la biodiversité.
Ce qui n'est pas le cas des coupes de régénération.
Hein. Non, voilà. C'est que de la futaie jardinée, irrégulière, comme l'a rappelé le paysan tout à l'heure. On va prendre les arbres petit à petit. Là, ça extermine toute la biodiversité d'une parcelle et puis ça impacte très très fortement les sols. Et la mise en lumière du sol libère en plus le carbone qui est présent dans le sol. Parce qu'il faut savoir que dans la forêt, la majeure partie du carbone, il n'est pas dans l'arbre,
non,
il est dans le sol. Et ce type d'exploitation, justement, va libérer ce carbone.
Alors on le voit très très bien dans le passage sur le Morvan, qui est d'ailleurs une petite montagne qui est très belle. Hein, elle est à 220 km de Paris. C'est absolument superbe, ce petit massif granitique. Et là, on voit quand même de sacrés ravages. Et c'est donc le Douglas qui commence donc à l'emporter. Enfin, c'est encore un pays de feuillus, mais c'est quand même ce fameux Douglas qui commence à l'emporter. Mais l'arbre, on lui en veut pas, hein. Il a un cœur de, non, mais il a un cœur imputrescible. On peut faire de très, très belles charpentes. Mais c'est tout, parce qu'il pousse plus vite.
Alors, il pousse plus vite, et puis, par chez moi, c'est à peu près 9 arbres sur 10 qui sont plantés, ce sont des Douglas. Par rapport au feuillu, forcément, il est beaucoup plus facilement standardisé, il passe bien dans les machines. Et puis, le drame là que vivent les forestiers qui me racontent, c'est qu'ils sont obligés de couper très très jeune, parce qu'aujourd'hui, l'industrie demande des tout petits diamètres, donc il va être coupé à 40 ans, incroyable. Alors qu'il est bien en deçà de son optimum écologique, du moment où il va pouvoir redonner à la terre ce qu'il lui a pris. Et puis même en termes technologiques, il a très peu de bois de cœur, c'est pas intéressant du tout. Mais c'est juste qu'on adapte la forêt à cette industrie, à cet outil industriel qui est en place, au lieu que ce soit industriel qui s'adapte à la forêt.
Et en plus, on fait beaucoup de palettes avec aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec la mondialisation, il nous faut de plus en plus d'emballages.
Oui, alors surtout, en tout cas, oui, la palette et puis surtout des produits de basse qualité. Aujourd'hui, la filière bois française, elle n'est pas assez orientée vers la qualité. Et c'est pour ça que, paradoxalement, même si on a 30% de surface boisée en France, la balance commerciale française est déficitaire pour les produits de la forêt. Elle fait assez peu de valeur ajoutée et parce que, bah voilà, on vise pas la qualité et le bois énergie, ça va pas non plus dans le sens d'une bonne valorisation de la forêt.
Un petit tour dans la piscine avec Camille.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel, sur mes côtes d'azur, c'est chaud, les âmes faibles, ma salive sans le chlore, mon lit décontamine, on s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes. Je suis piscine de sang, une piscine qui sait se taire et faire semblant.
Camille, la piscine, Audrey Pulvar, donc toujours avec nous. Et vous me disiez qu'en fait, les agriculteurs du Burkinabé, c'était absolument l'inverse. Parce que là, on est dans de la monoculture assez démente, quoi, quand même le dire. Tenue par des grands groupes. Hein. Vous avez des groupes comme AXA, vous avez des groupes comme la CNP, qui sont aussi des propriétaires de ces différentes forêts. Donc il faut faire cracher aussi des dividendes.
Mais là, on parle de la France.
Là, on parle de la France. France. Non, mais effectivement, Burkinabé, c'est autre chose.
Mais oui, hein. Non, mais moi, j'ai pu constater sur le terrain bien autre chose, quoi. Au contraire, ils sont à fond dans l'agroforesterie et ils s'appliquent à diversifier les espèces, à alterner entre moringa, karité et autres espèces, et puis à essayer de faire les choses intelligemment, en revenant à des pratiques anciennes, oui. Souvent.
Alors François-Xavier Drouet, donc avec ce temps des forêts, il y a aussi quand même, on va dire, des solutions. Bon, alors là, on voit d'ailleurs ProSilva, une gestion ProSilva, donc racontez-nous qu'est-ce que l'on fait. Il y a des groupements forestiers, des gens qui s'organisent pour essayer d'acheter des forêts, des bouts, 270 hectares par exemple dans le Morvan. Mais quelle gestion on peut avoir pour se dire que forêt durable est-ce compatible avec les enjeux économiques et des forestiers le disent?
Oui, on peut tout à fait récolter du bois sans saccager les écosystèmes. Donc, il y a notamment l'association ProSilva, qui est une association de gestionnaires forestiers, qui justement, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'écosystème pour récolter du bois. C'est ça qui donne d'ailleurs les meilleurs rendements à long terme, plutôt d'essayer de les nier un peu en suivant le modèle de l'agriculture productiviste. Il y a également le réseau pour les alternatives forestières, hein, qui aujourd'hui donc réunit tout un tas d'acteurs de la filière bois et forêt. forêts. Donc il y a 3,5 millions de propriétaires en France. Moi je les invite, si ils veulent justement pratiquer une sylviculture proche de la nature, à se rapprocher de ces organismes.
Et en tout cas, le temps des forêts est absolument à voir, et on pourra aussi donner la parole donc à ces gens-là. Merci à Camille Blanès, à Henri-Marc Mutel qui a réalisé l'émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. On se retrouve la semaine prochaine. Vous le savez, ce sera une ronde de sujets et d'initiatives. Allez, dans quelques instants, la librairie francophone, Emmanuel Quirade. Sommet de la francophonie, il était à Erevan.